Europe 1. Europe 1.
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. Comment est-ce que ça se construit? Comment ça se fabrique un champion olympique? C'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. L'histoire de Jean Galfione, médaille d'or de saut à la perche aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Il est là, bien sûr. Bonjour Jean Galfione.
Bonjour Christophe.
J'ai tiré cette histoire du livre que vous publiez chez Artaud, « Rien n'est jamais écrit ». Vous racontez aussi comment, après la perche, dans ce livre, vous êtes passé à la voile. Vous avez fait deux routes du Rhum, on en dira un mot tout à l'heure, mais il fallait circonscrire mon récit et j'ai fait le choix de le démarrer au moment où vous faites le choix de la perche et de le terminer au moment de votre médaille d'or. Je vous le dis avec beaucoup de franchise, la construction de votre médaille d'or est une histoire qui m'a passionné. Je l'ai écrite avec l'aide de Simon Veil, la réalisation, et signé Le Braz.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Pour être honnête avec vous, concernant Jean Galfione, la première chose qui m'intrigue au moment de débuter son histoire, c'est le choix du sport. Comment un gamin a-t-il l'idée de se lancer dans le saut à la perche? Dans le foot, c'est normal, on en parle partout. La course à pied aussi, c'est populaire, comme la natation. Mais le saut à la perche, comment est-ce que ça vient dans la tête d'un gamin de quoi, 12, 13 ans? Pour Jean, c'est à cet âge-là que ça se passe. Eh bien d'abord, après les Jeux Olympiques de Los Angeles, en 1984, il a 13 ans, son père achète le numéro spécial de Paris Match. Et il le garde. Et tous les jours, Jean va le prendre dans le classeur, dans le bureau de son père, et il le feuillette frénétiquement, sans jamais se lasser. Il a trouvé son héros. Sa bouille de gosse de 22 ans, ivre de bonheur, s'étale en grand dans Paris Match. Pierre Quinon. Il vient de décrocher l'or olympique en saut à la perche. Il est hilar, il a l'air heureux. Et à travers cette photo de Paris Match, il transmet quelque chose, une envie, au petit Jean Galfione. Cela dit, le terrain est favorable. Le sport est dans la culture familiale. Son père et sa mère sont d'anciens sportifs de haut niveau. Sa mère comme gymnaste, son père comme escrimeur. Donc il a ça dans le sang. Mais chez lui, il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de coupe sur une étagère, rien de tout ça. Et ses parents le laissent libre de choisir son sport. Et d'ailleurs, au début, il ne choisit pas. Il fait un peu de foot, du basket, du roller dans la rue. Et puis un jour, sa sœur, qui fait de l'athlétisme, l'emmène au stade. Le petit stade Georges Hébert de la Porte d'Auteuil, à Paris. Lui, il n'a pas d'a priori. Tous les sports l'intéressent, pourvu qu'ils se dépensent. Tous. Et dans un coin, il voit un sautoir. Et là, sans doute, se réveille l'image de son héros, Pierre Quinon. Alors il se rencarde. Est-ce qu'il y a un entraîneur? Il n'y en a pas. Mais un jour débarque un entraîneur d'épreuve combinée, Gérard Lanzoni. Ce type-là va changer sa vie. Il commence par lui donner un bon conseil. Dans l'athlétisme, au début, il faut toucher tout. Hein. Un peu de poids, un peu de saut en hauteur. Tu fais de la longueur, des haies, de la perche. T'essayes, quoi. Tu vois ce qui te va le mieux. Et au passage, d'ailleurs, t'apprends des trucs qui vont te servir dans toutes les disciplines. Hein. Fais-moi confiance. Et il lui fait confiance. Et il a bien raison. Et donc il se met à sauter des haies, à lancer des poids, à courir aussi beaucoup. Il fait le cross du Figaro. Il participe à des énéathlons, 9 spécialités d'athlétisme enchaînées. Et un jour, Lanzoni lui dit « Toi, tu vas faire du saut à la perche. » Comme son héros Pierre Quinon, ça lui va. Au début, il en bave. Il est nul. Il n'arrive à rien. Il ne comprend rien. Alors il va au stade en dehors des entraînements. Parfois, il sèche les cours. Il demande les clés au gardien et il s'entraîne seul. Une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que ça passe. Et puis un jour, son club lui propose d'être porteur de panier au meeting d'athlétisme de Paris, au stade Jean-Bouin. Ça consiste à porter le panier dans lequel les athlètes mettent leurs affaires, leurs serviettes, etc., de la ligne de départ à la ligne d'arrivée. Les ramasseurs de balles de l'athlétisme. Il accepte, bien sûr. Et il se retrouve à quelques mètres des meilleurs du monde. Carl Lewis, là. Edwin Moses, Merlin Otte, à 3 mètres. Il est aux anges. Et ça n'est pas fini. Son entraîneur Lanzoni, dans son dos, a parlé de lui à Maurice Ouvion, l'entraîneur de perche du Stade français.
J'en ai un qui a la pêche. Il a le tempérament, tu vois. Mais pour l'instant, il saute mal, hein. Je peux te l'envoyer, si tu veux.
Et pendant ce meeting, Ouvion demande à le voir.
Alors, petit, c'est toi qui fais de la perche? Faut venir me voir, hein. Je suis à la porte de Pantin, entraînement tous les samedis matins. Tu viens, je t'attends.
Il ne faut pas le lui dire deux fois. Et ce faisant, Jean Galfione vient de trouver l'entraîneur qui va l'accompagner jusqu'à la médaille d'or. Il lui a dit, viens samedi prochain dans une salle de la porte de Pantin. C'est à l'autre bout de Paris. Il y va en mobylette. La salle, il la connaît. Il a déjà fait des compètes de haies et de hauteur. Il arrive, il voit qu'il y a 4 ou 5 gamins de son âge, et dans sa tête immédiatement, ce sont des adversaires. Il débarque à cet entraînement comme à une compétition. Il est là pour démontrer qu'il peut faire du saut à la perche. Il n'est pas là pour prendre une leçon. Il est là pour montrer qu'il est le meilleur. C'est ça qui fait un champion. Les autres sont des sportifs. Un champion, ça veut gagner tout le temps. Et sur ce plan-là, Maurice Ouvion le repère tout de suite.
Eh bien, disons, lui avec son caractère, on va pas s'ennuyer, hein.
Et puis un jour, Ouvion lui dit.
Jean, viens voir. Tu sais, moi je travaille surtout à l'INSEP, l'Institut National des Sports. Il y a des créneaux pour les jeunes là-bas. Alors tu vas venir le mercredi. Mais comme t'es pas assez bon, je peux pas t'avoir de carte pour rentrer. Mais tu viens quand même, hein. Tu te démerdes pour rentrer. Je veux te voir.
Mobilette. Direction Vincennes. Et Jean rentre en escaladant la grille de derrière. Il est motivé, le petit. À l'INSEP, il n'est pas totalement perdu, soyons francs. Ses parents se sont rencontrés là. Tiens, ça me donne l'occasion de vous parler de ses parents. Ils le laissent faire. Ils ont confiance en lui. Et pourtant, ses bulletins scolaires sont pitoyables. Ils ont tout essayé. Les cours particuliers, l'orthophonie, l'école. Jean, c'est pas son truc. Il est nul. Et du coup, les autres se moquent de lui. Et aller à l'école, ça l'angoisse. Encaisser des bananes, se faire chambrer tout le temps. Le sport, c'est son refuge, son petit imaginaire de champion. C'est ça qui le rend heureux. Et pourtant, à un moment, ses parents se laissent convaincre de lui faire arrêter le sport pour qu'il se consacre à l'école. Tu parles, il fait du roller jusqu'à pas d'heure. Et ses notes ne s'améliorent pas. Et donc, à un moment, sa mère annonce
« Hé, stop ! Arrêtez de l'emmerder ! Il fait du sport s'il veut !» Et puis on verra bien, hein.
Et petit à petit, Jean commence à avoir des résultats sur le plan régional. Et Maurice Ouvion lui propose d'entrer à l'INSEP, une école pour les sportifs de haut niveau, moitié cours, moitié entraînement. Il l'aidera, mais il le prévient.
Tu bosses à l'école, hein? Arrête tes conneries!
On bidouille un peu son dossier scolaire pour cacher la poussière et il rentre à l'INSEP. Et ça change tout. Il a un objectif dans la vie, bien clair, devenir champion de saut à la perche. En attendant, le jeune Galfione signe quelques exploits. Par exemple, il escalade les grues de Paris, la nuit, pour le bonheur de contempler la capitale, d'en haut. Il aime prendre des risques. À part ça, avec Maurice Ouvion, Jean a fait ce qu'on appelle une rencontre. Une rencontre déterminante. Ouvion lui apprend la patience, ne pas s'énerver quand ça ne va pas, et respecter son plan d'entraînement. Planifier, c'est le mot-clé. Il dit souvent
« L'organisation, mon gars, c'est 50% de la performance. »
Concrètement, ça veut dire que on ne peut pas arriver à l'entraînement sans savoir ce qu'on va faire. Tout est inscrit sur le plan d'entraînement. Maurice est un entraîneur à l'ancienne. Il prend tout en charge. La technique, l'humain, le physique et le psy. Et en vérité, son but, ça n'est pas de faire de Jean un champion. Ce qu'il cherche, c'est que dans 20 ans, il revienne le voir et il lui dise
« Maurice, j'ai gardé les repères que tu m'as donnés. »
Jean Galfione écrit « La vie était une fête avec des gens comme Maurice. Il pouvait être dur à l'occasion, mais nous avions une telle confiance en lui. C'était la seule personne dont j'acceptais de recevoir des coups de pied au cul. J'avais une confiance aveugle en lui. Il avait la faculté d'entretenir la passion. » Et c'est Maurice Ouvion qui va accompagner le jeune Jean Galfione jusqu'à la médaille d'or. Quand il se lance à fond dans le saut à la perche, à 15 ans, en cadet, le jeune Jean Galfione passe 4 mètres, pas plus, alors que le record de France est à 5 mètres 10. Et pourtant, il se dit « Le prochain record, c'est pour moi. » Et il le bat un an plus tard. Voilà comment ça marche dans la tête de Galfione. Et il attaque ses premières compétitions internationales. Championnat d'Europe en Yougoslavie. La guigne. Les perches sont trop longues pour entrer dans l'avion. Les bagagistes forcent un peu. Il les casse. Obligé de se faire prêter des perches. Il finit 9e. Mais l'année d'après, Jean remporte son premier titre en Bulgarie. Il passe 5 mètres 45, champion du monde junior. Et ça lui ouvre les portes des meetings. Il y en a plus d'une vingtaine par an. C'est ça qui fait vivre le circuit d'athlétisme. Et donc il découvre le rituel des meetings. Descente de l'avion, récupération des perches, on les accroche sur le toit du bus, arrivée à l'hôtel, la queue pour avoir sa chambre, séance d'échauffement, retour à l'hôtel, le lendemain meeting et retour à Paris. Pas une minute pour voir le pays. Et c'est comme ça que petit à petit se construit le champion. Alors, comment Jean devient-il en 1996, à l'âge de 25 ans, aux Jeux Olympiques d'Atlanta, champion olympique de saut à la perche? Pour comprendre, il faut remonter un an avant, les championnats du monde de Göteborg, en Suède. Jean passe 5 mètres 86 et il termine 3e, le bronze, derrière le légendaire ukrainien Bubka et le russe Tarasov. C'est une belle leçon, parce que jusque-là, Jean n'avait jamais pensé qu'il pouvait battre Bubka. C'est ça qui va faire la différence. Bubka y croyait plus que lui. Et ce qui change, c'est qu'à partir de Göteborg, il se dit « Bubka, Tarasov, qu'est-ce qu'ils ont fait? 5 mètres 86? 5 mètres 92? Eh ben moi aussi, je peux le faire. » Et au cours de la conférence de presse qui suit, il le dit
« Eh bien, je vise le titre olympique l'année prochaine, à Atlanta. »
Il voit le regard de Bubka à ce moment-là, genre « Attends mon petit gars, t'es bien gentil. » Il se dit « Peut-être que j'aurais pas dû dire ça, qu'est-ce qui m'a pris ?» Mais il l'a dit. Et à partir de maintenant, quand il pense aux JO d'Atlanta qui arrivent, c'est pour gagner. C'est fondamental dans la construction de son titre olympique. Fondamental. Et après, il bosse. Il a de la chance, pas de blessure. Il ne gagne aucun meeting, mais il passe régulièrement les 5 m 90. Et bonne nouvelle, chez les Russes, Tarasov ne se qualifie pas. Un de moins. L'été d'avant, l'été 95, Jean va avec Maurice Ouvion et 3 ou 4 autres athlètes, dont Stéphane Yagana, repérer le site d'Atlanta. Et il découvre le cagnard, l'humidité. Ça sera pas facile. Alors avec Maurice, il décide d'arriver sur place le plus tard possible. De s'entraîner à la fraîche à Paris jusqu'au dernier moment. Sauf qu'au Comité National Olympique Français, on voit les choses autrement, voyez-vous. Il y a un planning de départ. Alors ok pour mettre Galfione dans le dernier avion, mais on ne peut pas faire mieux. Et Maurice, ça ne lui va pas.
Font chier, putain! On va se démerder pour partir plus tard, tant pis pour eux.
Et ils se font payer le billet par un partenaire, Gaz de France. Ça ne plaît pas du tout au Comité Olympique. Maurice Ouvion est convoqué, il se fait remonter les bretelles. Et on lui fait signer un papelard, si Galfione échoue, ce sera de sa faute. Bonjour l'ambiance. Et donc tout le monde s'envole pour Atlanta, et Galfione se retrouve tout seul à l'INSEP avec Ouvion, au calme, au frais, loin de l'effervescence olympique. La dernière séance arrive. Un transporteur vient chercher les perches. Et pour fêter la fin de la préparation, Maurice sort une bouteille de champ. Et Jean Galfione arrive à Atlanta 4 jours avant les qualifs. Il arrive à l'hôtel, le dernier, et on le colle dans un appartement avec 2 joueurs de tennis de table qui viennent de se faire sortir.
T'es dans cet appartement, Jean ? Oh, il est maudit, je te préviens. On s'est tous plantés là-dedans.
Mais Jean l'entend à peine. Il est dans sa bulle. Les qualifications. Jean a déjà l'expérience des JO de 92. Avec le flip, il s'était endormi à 3h du matin pour se lever à 5h. Il est arrivé rétamé au stade et il s'est fait éliminer. Et donc l'important c'est de dormir, de bien dormir. Il règle son réveil le plus tard possible et bon an mal an, il dort. Il arrive sur le stade, il fait une chaleur de gueux. Mais il l'a prévu. Il s'est équipé, il a un brumisateur et il a des poches de glace à poser sur sa nuque. Échauffement, il ne regarde pas les autres. Mais il voit Boubka prendre son sac et partir. Boubka est forfait. Pour lui, ça ne change rien, il y en a d'autres devant lui. Il n'est pas le favori. Et il se qualifie pour la finale. Et il fait encore chaud, je peux vous le dire. Jean reste à l'ombre au maximum. Il est sur le point d'entrer dans la chambre d'appel. Maurice vient le voir une dernière fois.
Jean, fais-toi plaisir, hein ? Saute pour toi.
Il entre dans le stade olympique. Il s'échauffe un minimum pour s'économiser. Et sans oublier sa bouteille d'eau, il va se coller à l'ombre d'un lampadaire, à l'écart du sautoir. Et là, il commence à regarder autour de lui, les tribunes. Il se lève, il va se mettre au milieu des autres perchistes pour sentir leur état psychologique et voir comment ils gèrent leur échauffement. Il attaque à 5 m 60. Il passe au premier essai. Il change de perche. 5 m 80, il accroche. Très mauvais saut. Ça lui fait un électrochoc.
Putain, c'est quoi cette merde? C'est interdit ça, putain.
Le coup d'après, ça passe. Et le suivant aussi. 5 m 86, il est en confiance. 5 m 92, le record olympique. Ça passe encore.
Si le russe Tradenkov, Igor Tradenkov, qui est en train de se concentrer, le visage très pâle, il est très, très mince, très affûté, les yeux bleus. Si ce sauteur à la perche manque ce troisième essai, eh bien Jean Galfione sera champion olympique du saut à la perche. Jean Galfione qui est au bord des larmes là-bas, sous la voûte du banc sur lequel se reposent les athlètes. Jean Galfione qui a compris que de toute façon maintenant ce soir, eh bien il se passait quelque chose de grand dans sa jeune carrière. L'ancien champion du monde junior qui longtemps, très longtemps au plus haut niveau, eh bien paraissait complexé, timide, manquant de confiance, et puis progressivement avec le travail de Maurice Ouvion, il s'est libéré. Et c'est parti, il s'élance, il sera champion olympique. Sinon c'est Galfione. Il pique sa perche, il ne passe pas. Galfione ne peut plus être rejoint. Jean Galfione est champion olympique du saut à la perche. Il est champion olympique 12 ans après Pierre Quinon, c'était en 84. Avec Jean-Claude Perrin, Jean Galfione qui s'en va là-bas. D'abord Pierre Quinon qui est en larmes. Pierre Quinon qui lui parle et qui lui dit « Eh bien, tu l'as fait !» Et lui, Quinon, le dernier champion olympique, il embrasse tout le monde, tous les perchistes. Pierre Quinon, Alexandre Susot, Jean-Michel Godard, tout le camp français réuni avec Maurice Ouvion et Jean-Claude Perrin qui n'est pas loin. Voilà donc l'info de la nuit. Jean Galfione, champion olympique du saut à la perche, avec un saut à 5,92 m. Chapeau Galfione qui est en larmes, car c'est un champion qui vraiment a su se libérer dans un moment important, le plus haut niveau, le titre olympique. Il court dans tous les sens, Galfione, il a maintenant le drapeau tricolore. Il est champion olympique 12 ans après Pierre Quinon, Atlanta, Pierre-Louis Basse, Europe 1.
On lui donne un drapeau, on fait des photos et les autres viennent le chercher pour un tour d'honneur. Et le soir même, on lui remet sa médaille d'or.
Donc pour votre histoire, Jean Galfione, ça vous fait encore des frissons 20 ans après cette Marseillaise, Jean Galfione?
Ça fait encore des frissons, certainement, surtout raconté de cette façon. J'ai revécu les choses comme si c'était hier ou aujourd'hui.
Ouais, c'était fidèle.
C'était très fidèle, merci beaucoup.
Votre carrière de perchiste, il faut le dire, ne s'arrête pas là. Moi, il fallait bien que j'arrête mon histoire à un moment. Je pense que c'était bien de l'arrêter sur la médaille d'or, mais vous allez devenir ensuite l'un des rares à franchir les 6 mètres.
Ouais.
Ça va se passer au Japon. Et d'ailleurs, Ouvion vous en parle dans la voiture en rentrant au village olympique.
Lui, il me parle même du record du monde dans la voiture en descendant du podium olympique. Moi, j'étais sur un nuage, je ne sais pas trop ce qui m'arrivait. Et lui, déjà, avait compris que la suite allait être aussi compliquée pour lui, pour moi, pour retrouver probablement une motivation. Il est inquiet pour le futur. Donc, il me parle de record du monde tout de suite. Et j'avais pas encore fait 6 mètres à l'époque. Donc, je lui dis, attends, laisse-moi digérer. Mais je pense qu'il avait raison. Il avait raison tout de suite de se projeter sur l'avenir.
Parce que c'est piégeux, une médaille d'or. C'est-à-dire qu'il y a un moment de mou derrière. Il y a un moment de joie. Les gens vous adulent. On vous découvre. Et puis là, sportivement, il faut gérer.
C'est dur parce qu'il faut gérer médiatiquement. D'un coup, un titre olympique, on rentre dans les foyers de tout le monde parce que c'est très populaire. Donc, il faut gérer tout ça. C'est pas facile. Heureusement, moi, j'avais une structure, j'étais assez organisé, donc j'ai pu quand même faire face. Ce qui est difficile, c'est de retourner à l'entraînement et accepter à nouveau de se faire mal, voire très mal, l'inconfort, la souffrance. Et le soir même, on nous met sur un piédestal pour nous dire qu'on est toujours le plus beau et le plus fort. Et donc, il y a une sorte de différence. Moi, j'ai vécu comme ça.
Il
y avait un grand écart parce que malgré tout, pour atteindre le très haut niveau, il faut aller un peu au bagne, quoi. Il faut y aller, quoi. Il faut accepter de se faire mal et tout le temps, quoi. Il faut être à 110%. C'est vrai que ce petit confort de notoriété, parfois, est pas toujours compatible.
On va reprendre dans un instant le récit dans l'ordre. J'ai plein de questions à vous poser sur ce processus qui est extrêmement construit et qui vous amène à cette médaille d'or en 10 ans, j'ai quand même une dernière petite remarque. Pour beaucoup de gens, ils découvrent le beau gosse en 96. Et à ce moment-là, on dit, il va devenir mannequin, il va devenir acteur. Vous ne dites pas un mot de ça dans le bouquin.
Ah oui, parce que j'étais perchiste, point quoi. Ma vie depuis gamin, depuis que j'ai découvert cette discipline, c'était d'être perchiste et rien d'autre. Et pour rien au monde, j'aurais voulu que ma vie change.
Et donc toutes ces idées qui jaillissent en 96 étaient perdues d'avance quoi.
Non, mais en fait c'était une époque aussi où on aimait bien mettre les sportifs dans les pubs, dans les défilés de mode, etc. Donc moi on m'a proposé tout ça.
J'en ai fait un peu.
Ça m'a pas passionné plus que ça. C'était très difficile surtout, je trouvais. Et puis, ma vie d'athlète et de perchiste continuait surtout.
Et je veux qu'on commence par le tout début de l'histoire, par ce choix de la perche à l'heure où probablement tous vos copains choisissent ou rêvent de devenir footballeur international. C'est très intriquant parce que c'est probablement le plus incommode des sports de l'athlétisme. C'est immense, une perche. On peut pas s'entraîner partout. Faut trimballer ces machins gigantesques. On raconte dans votre histoire que vous la cassez de temps en temps dans l'avion, que ça vous crée tout un tas de problèmes. Ça me fait penser donc à ces gamins qui disent je veux faire de la contrebasse, un truc, il faut deux voitures pour la transporter. Qu'est-ce qui vous a pris?
Mais ce qui m'a pris, c'est que j'étais sur un stade d'athlétisme. Et comme vous le racontez bien, j'ai fait toutes les épreuves, j'ai tout essayé. Un peu doué, pas un crack en tout, mais je me débrouillais bien et surtout je comprenais le geste assez facilement dans les autres épreuves. Sauf que quand j'ai commencé la perche, j'étais vraiment nul et c'était un affront, quoi. J'arrivais pas du tout à mettre un pied devant l'autre, je comprenais pas la technique, les autres y arrivaient beaucoup mieux que moi. Et ça m'a plu, cette difficulté, ce problème de pas réussir à m'a vraiment titillé. Donc je suis retourné, je me suis entraîné seul. J'ai fini par réussir à sauter du mauvais pied d'impulsion. Enfin, c'était un peu...
Lanzoni, il vous envoie pas vers la perche parce qu'il y a peut-être un manque de vocation pour la perche aussi.
Il m'envoie à la perche parce qu'il sait que je suis... enthousiasme, casse-cou, un peu téméraire, donc toutes les qualités qu'on aime bien voir chez des jeunes perchistes. Et donc il s'est dit, lui, il faut qu'il essaye. Et avec les qualités physiques que j'avais développées grâce à Gérard Lanzoni sur les autres épreuves, tout de suite, rapidement, j'ai eu des facilités. Quoi.
Ouais. Alors ce qui m'a bien intéressé aussi, c'est ce moment où vous calez à l'école. C'est quelque chose que je n'avais pas imaginé. Que peut-être vous pouvez décrire un peu plus avant, qu'est-ce qui se passe avec l'école ?
Je faisais partie des enfants pour qui être à l'école était un vrai calvaire depuis tout petit, c'est-à-dire j'arrivais pas à rester assis sur une chaise, il fallait que je me mette debout, j'avais mal aux fesses quoi, vraiment j'arrivais pas à m'asseoir longtemps, pas à me concentrer encore plus, je regardais par la fenêtre.
Hyperactif ?
Un peu hyperactif, mais surtout mal à l'aise. J'étais angoissé, presque de la claustrophobie, enfermé dans cette salle où je comprenais rien, ce qu'on me racontait. C'était très difficile. Et puis, j'attendais une seule chose, c'était pouvoir jouer au foot dans la cour de récréation ou courir derrière une balle de basket ou les cours de sport. Là, c'était mon univers. Donc, j'ai redoublé, bien sûr, toutes les classes qu'on peut imaginer.
Ouais, vous avez deux ans de retard quand vous arrivez au collège.
Troisième, des classes d'adaptation. C'est des classes effectivement très réduites pour de considérer un peu plus, avoir plus de temps pour les élèves, mais ça n'a rien fait du tout. Et résultat, en fin de compte, le seul truc qui me manquait, c'est que je comprenais pas pourquoi j'allais à l'école. Et le jour, on m'a dit, écoute, si tu passes dans la classe supérieure, tu peux rentrer à l'INSEP, parce que ton niveau sportif commence à être pas mal. Là, d'un coup, ça a été le déclenchement.
À l'INSEP, il y a eu un déclic scolaire aussi.
Et à l'INSEP, une fois que j'y étais, on m'a dit, bon, voilà, si tu veux continuer, il faut que ton niveau scolaire soit bon, parce qu'à l'INSEP, on peut pas avoir des gens ric-rac qui rament, parce que physiquement, c'est un peu dur, les gamins, quand on est gamin, on sait deux entraînements par jour, il y a beaucoup de fatigue, donc il faut malgré tout que scolairement, ça suive. Et là, on m'a donné un dossier d'orientation, parce que j'avais en effet déjà pas mal de retard scolairement, et là, ça a marché. Pas trop, et là aussi ça a été un peu le déclenchement.
Ah oui, donc je voulais même pas conduire. Ça n'a pas déclenché.
Non, je me suis bougé pour y rentrer, et après j'étais au chaud, quoi. C'est-à-dire que il y avait pas de pression. Je séchais les cours, on me disait rien, je continuais, puis jusqu'à ce qu'on me donne ce fameux dossier d'orientation, et c'était synonyme. Si tu pars, terminé, plus de perche, plus de sport. Et voilà, ça devient beaucoup moins drôle cette histoire. Donc là, une fois encore, j'ai compris à quoi servait surtout l'école et pourquoi il fallait se donner un petit peu de mal pour sauter à la perche, bizarrement.
Alors il faut qu'on parle évidemment de Maurice Souvion. Il y a une sorte de chance quand même au départ que Lanzoni vous présente à Souvion au tout début de votre carrière de perchiste.
Mais tout est une chance parce que je rencontre des bonnes personnes à des moments clés. Maurice Souvion a été extraordinaire de le rencontrer à ce moment-là parce que c'était des années où je commençais à progresser physiquement, mais il me fallait ensuite quelqu'un qui me canalise et qui me donne un peu d'autorité et qui me ensuite m'oriente vers une discipline sur laquelle qui devient une vraie passion. Et il n'y a pas une seule journée, je dessinais pas des perchistes sur mes cahiers d'entraînement, je pensais qu'à ça. Donc
mais si vous avez habitez à 500 km de Paris, vous rencontrez pas Ouvion à 14 ans.
Et je rencontre pas Maurice Ouvion si je suis à 500 km de Paris. Alors je rencontre peut-être d'autres éducateurs, d'autres personnes, peut-être moins qualifiés, enfin moins d'expérience, et je passe à côté d'une carrière, c'est vrai.
Parce que ça, je l'ai pas dit, mais Ouvion, à cette époque-là, il a déjà amené au plus haut niveau un immense perchiste qui est son fils.
Son fils qui a été recordman du monde, oui. Philippe Ouvion, hein, en 5m77 en 1981.
Alors Ouvion, c'est d'abord une méthode. Ça, vous le racontez bien, c'est très intéressant, parce que il considère que la préparation, le plan d'entraînement, vaut pour 50% de la performance.
L'organisation et la rigueur. Et ça, c'était essentiel dans sa façon de voir la discipline. Mais derrière, il habillait avec plein d'autres ingrédients la préparation. Il fallait qu'il y ait un enthousiasme en permanence qui habitait chaque séance d'entraînement, même si elles étaient dures. Parce que faire une séance à 80%, 90% n'était absolument pas efficace. Donc il fallait toujours être positif à 110, 120%. C'est pour ça que l'entraînement en groupe, pour moi, était extrêmement important. L'émulation était importante. Et Maurice, c'était le chef d'orchestre qui donnait les petits conseils pour que tout ça continue à être positif et vers l'avant et de manière très enthousiaste.
Ça a été votre entraîneur jusqu'au bout, du bout de votre carrière.
Ça a été mon entraîneur même plus que ça, parce que quand lui est parti à la retraite en 2000, il a continué à être encore mon entraîneur, même à la retraite. Et je dirais que c'est encore mon entraîneur aujourd'hui.
Mais vous êtes très clair dans votre bouquin, vous dites c'est pas mon deuxième papa.
Non.
Parce que souvent les sportifs disent, ouais. Bon, mon entraîneur, on rentre chez eux très jeune, parfois on habite chez eux, on vit avec eux tellement de temps qu'ils deviennent quelqu'un de notre famille.
Bah, je dirais que Maurice, non. Moi, j'avais un père formidable et qui remplissait tout à fait son rôle. Maurice remplissait le rôle d'entraîneur et il avait toutes ses qualités pour être un vrai entraîneur avec qui forgeait de la confiance et qui donnait cette responsabilité à un adolescent et qui donnait envie de se dépasser tous les jours. Donc non, c'était pas quelqu'un de ma famille, mais c'est quelqu'un qui compte énormément aujourd'hui encore dans ma vie, qui m'a permis de me construire.
J'ai raconté que vous considérez que son but n'était pas de faire de vous un champion, que son but ultime, c'était que vous veniez 20 ans après lui dire « je continue d'appliquer ta méthode ».
Alors, j'ai fait que répéter ce que j'ai entendu dire de sa bouche longtemps, que sa plus grande fierté, c'est quand ses anciens perchistes à tête viennent en effet 20 ans après pour lui dire « ma vie a été écrite avec les valeurs que j'ai apprises
avec toi,
voilà. Ouais. Donc, c'est ça sa plus grande fierté.
Mais en vérité, il voulait quand même que vous soyez champion.
En vérité, on n'avait que ça dans la tête.
Bon, j'aime bien. Vous m'avez entourloupé. Vous dites qu'il s'occupe à la fois du physique et du psy.
Oui.
Concrètement, ça veut dire quoi?
C'est simplement que aujourd'hui, on sait que parfois on décortique un peu le rôle de l'entraîneur. Il fait pas la préparation physique, il fait parfois que la technique. Il s'occupe pas du psy, ni du confort, du psychique. Et en fait, Maurice prenait tout en main. Lui, il allait se faire former par des gens compétents et après, il venait nous donner les outils. Parce que simplement, j'avais une grande confiance en lui. Donc, tout ce qu'il pouvait me dire, moi, je croyais et je faisais confiance. Quand il y avait quelqu'un de l'extérieur qui arrivait, déjà, il fallait que je recrée une confiance avec quelqu'un de l'extérieur et c'est déjà un frein. Donc, je préférais que lui vienne avec ses outils, qu'il me donne ses infos, qu'il venait chercher. Donc, c'est un triple travail pour l'entraîneur. Et j'aimais bien cette façon de faire, parce que j'ai eu des psychologues qui sont venus me voir sur les stades. Et je comprenais rien ce qu'ils me racontaient. Je les mettais à la porte. Et les préparateurs physiques, très bons, mais sauf qu'à un moment donné, ils ne connaissent pas ni les pathologies, ni les antécédents, ni le confort ou les faiblesses qu'on peut avoir. Voilà, c'est ça que j'ai
recherché. Ni le caractère.
Et ni les humeurs, les caractères, les problèmes perso parfois. Et puis, tout ça, ça rentre en jeu dans une préparation.
Nous voilà un an avant Atlanta. D'abord, j'ai été très intéressé de découvrir que vous allez à Atlanta avec Maurice Ouvion pour non pas reconnaître le terrain, parce qu'en fait, le sautoir n'est probablement pas encore installé un an avant, mais pour percevoir le climat.
Oui, parce qu'il y avait un voyage organisé avec la Fédération Internationale qui proposait à certains athlètes français et d'autres pays aussi de faire une reconnaissance. Une reconnaissance sur un stade qui n'était pas encore
pas fini
et pas en configuration d'athlétiste, un stade de baseball. Et donc, non, on est allé surtout pour s'imprégner du climat, ouais, bien sûr. Et en fait, c'était extrêmement instructif parce qu'en effet, c'est très très humide à Atlanta l'été. Et vite, on a compris que c'était pour s'acclimater, en fait, il faut plusieurs semaines pour se sentir bien. Et on n'avait pas plusieurs semaines pour rester là-bas.
Donc il va falloir trouver des parades.
On a trouvé notre parade, c'est, en se renseignant, c'est d'arriver, en effet, le plus tard possible.
Oui, on va revenir là-dessus dans un instant. Alors donc, jusqu'à Göteborg, jamais vous n'envisagez que vous êtes capable de battre Bubka.
Non, 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 non. Je pense que j'ai jamais imaginé ça. À l'époque, Bubka, c'était
le
demi-dieu. Voilà, il remplissait les stades à lui tout seul. Il battait record du monde sur record du monde. Mmh. Et il n'y avait pas beaucoup de suspense quand il était là, quoi. Donc, de temps en temps, il avait des défaillances. Et là, il fallait être présent. Il n'y avait pas beaucoup. Oui. Donc, ça m'était déjà arrivé peut-être le battre une ou deux fois quand lui était un tout petit peu moins bien. Et moi, bon, mais c'était très rare. Néanmoins, en championnat du monde ou aux Jeux Olympiques, tout ça, c'était pas intégré. Déjà, moi, j'avais pas intégré que je pouvais gagner le titre olympique parce que j'étais en prise encore avec une progression, des choix de perche, des choses techniques qui étaient pas encore bien établies. Mais c'est vrai que cette année 95 a été révélatrice parce que j'ai galéré toute l'année, j'avais pas mal de blessures, j'arrivais pas à m'en sortir. C'était une extrémiste d'ailleurs si j'arrive à me qualifier sur ces championnats du monde. Je crois que c'était au dernier meeting à Sestrières où le dernier meeting vraiment de la dernière chance à me requalifier en faisant je crois 5,85 derrière Bubka qui venait peut-être de battre le record du monde d'ailleurs et arriver donc à Göteborg en ayant fait une qualification catastrophique où je dois être le 11e ou 12e à passer en finale. Là aussi, je ramais encore pas mal. D'un coup, une fois que je suis passé ces qualifs, je me dis, mais stop quoi, ça suffit. Maintenant, à moi de sauter proprement, bien, et je fais un très beau concours. Rien d'exceptionnel, mais sauf que je suis sur le podium et pratiquement à la même hauteur. Non, Bubka fait 92, je suis troisième, et à la même hauteur que Tarasov, qui était déjà aussi un perchiste extrêmement fort, bien plus fort que moi sur le papier. Et je me suis rendu compte, et là, à ce moment, je me dis, mais en fin de compte, c'est quoi la différence entre ce jour-là, c'est le jour du championnat de cette finale, quelle est la différence entre Bubka et moi? On parle pas de record du monde, on parle juste d'hommes qui vont au combat sur un concours un jour, et c'est pas une recherche de record du monde, c'est beaucoup une guerre de psychologique, de tactique et une préparation. Bref, je me suis dit, mais la différence, elle est juste infime en fin de compte, c'est quelques centimètres. Et même si c'était pas toujours forcément vrai, parce que Bubka était plus rapide, plus fort, il allait plus haut, mais j'ai eu cette confiance pendant un an de me dire que si ça m'arrivait de devant une barre et que cette barre pouvait m'apporter mon titre olympique, eh ben j'étais prêt. Ça me faisait pas peur. Donc quand Bubka se blesse, quand Tarasov se blesse, quand d'autres passent à côté, j'étais prêt, ça me posait aucun problème.
Alors vous le dites au cours de cette conférence de presse, et ce que j'ai aimé, c'est que vous le regrettez quand même.
Mais non, parce que je le dis, je regrette pas, je me dis je crois que ça y est, je suis prêt pour gagner, la prochaine fois j'irai pour gagner, et à ce moment-là je le dis, je regarde Sergueï qui me regarde avec un petit sourire en coin de bouche.
Dire, il est gentil, le petit blond, là.
C'était pas de la provoque pour lui, hein. Oui. J'avais pas envie de le provoquer, ni de le chambrer, ni de quoi
non,
que ce soit.
Non mais vous avez l'esprit de compétition, mais il y a un petit bémol chez vous quand même.
Non, parce que je suis pas à fanfaronner quoi.
Vous n'êtes pas un warrior.
Non, mais c'est pas ça. Mais quand on fait de la compétition, soit on gagne ou soit on le dit. Oui. Voilà. Et souvent, quand on gagne, il y a pas besoin de le dire avant. Et là, d'un coup, j'ouvre ma gueule, j'ouvre ma bouche. C'était pas mon habitude. Et soit c'était en effet de la provoque ou soit un abus de confiance tout ça. Et puis en fait, je dis non, mais arrête, c'est pas toi. Fais ce que t'as à faire. Mais ça changeait pas ce que je pensais quoi. Sauf que j'avais pas envie non plus de provoquer Bubka. Mais j'étais respect.
Parlons donc de cette décision d'arriver le plus tard possible, de se faire payer le billet par Gaz de France, qui ne plaît pas du tout à la fédération. Il faut que vous nous expliquiez ça, parce que évidemment, vu de notre côté, journaliste, ça passe pour un caprice de star, de starlette.
Bah, peut-être. Après, je vous dis, moi j'étais allé un an avant et je savais que arriver juste dans le créneau qu'ils nous proposaient, ça voulait dire être resté une semaine dans un...
Au village olympique.
Non, pas au village olympique, d'abord dans un hôtel où on se préparait avant, une semaine à subir la chaleur et le décalage horaire, et à s'entraîner surtout avec pas pouvoir faire des séances efficaces, parce qu'il faisait trop chaud pour y arriver, et après on est obligé d'être deux ou trois jours avant au village olympique, c'est une règle olympique, chaque sportif doit arriver deux ou trois jours avant sa compétition au village. Donc ça voulait dire, c'était déjà 15 jours où je pouvais pas m'entraîner efficacement, je devais subir
la chaleur
et la tension des Jeux Olympiques. On croise ses adversaires sur le stade d'échauffement, que ce soit sur le stade à l'hôtel, mais également ensuite au village. Donc tout ça, on bouffe un jus énormément. Quoi. Et inversement, on savait qu'à Paris, il faisait doux le matin et le soir. Je pouvais faire des séances deux fois par jour, presque à la fraîche. Et j'avais commencé à me décaler mon décalage horaire à Paris.
En se couchant
J'avais décalé 3 heures déjà à Paris, ouais.
D'accord.
Ouais. Donc quand je suis arrivé là-bas, 3 heures de décalage, j'étais plus, je le subissais pas, et ça m'a permis d'être bien déjà sur ce physiologique, pardon. Et ensuite, bah oui, c'était pas, on n'était pas dans le plan prévu par le comité olympique, ça les emmerdait un petit peu, et on s'organisait autrement.
Valait mieux gagner. J'ai noté, on n'aura pas eu le temps de parler de la voile, mais j'ai noté que vous formulez votre demande à Laurent Bourgnon de vous apprendre la voile de compétition en 1996. Donc juste après la médaille.
Bah ouais, je participe au Trophée Volvic, un rassemblement de plein de sportifs pour faire des épreuves autour des volcans. Et Laurent était là. Et disons que j'avais une grande admiration déjà pour Laurent Bourgnon parce que je le connaissais pas, mais je connaissais ses exploits. Et c'était un type hyper sympa. Et donc je vais le voir. Je dis bon, bah Laurent, je veux faire du bateau. J'adore cette idée de naviguer, mais j'ai pas envie de prendre des cours. J'ai pas envie d'aller dans des stages de voile. Comment je peux faire? Est-ce qu'il y a pas une autre façon? Et je crois que ma question lui a plu et sa réponse m'a plu aussi. Il m'a dit prends un bateau. Tu dis que tu connais, tu loues, tu pars, tu vas t'arriver toutes les merdes pas possibles et puis tu vas apprendre beaucoup plus vite comme ça. Et du coup, j'ai fait ça. Et il avait raison.
Vous avez utilisé beaucoup la méthode Ouvion dans la voile.
Bah oui, c'était mon repère. C'était mon repère d'organiser et planifier les choses. Donc j'ai mis ça en place et ça m'a beaucoup servi, oui, bien sûr.
Et on lira ça dans la deuxième partie de votre bouquin, quoi qu'il y en ait un peu partout. Hein, le parallèle est fait en permanence dans le livre entre votre carrière d'athlète et ensuite votre carrière de voileux. Le bouquin s'appelle « Rien n'est jamais écrit ». Il paraît aux éditions Artaud. J'ai été ravi de raconter cette histoire avec vous et pour vous, Jean Galfione.
Merci Christophe.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.